réplique sur les pas de Jean Starobinski avec Jean-Claude Bonnet et Martin Rueff. Comme beaucoup de lecteurs, je suis entré dans l'œuvre de Jean Starobinski par la porte de son essai sur Rousseau, La transparence et l'obstacle. J'ai été ébloui. Ce que Jean-Jacques appelle son triste et grand système se déployait sous mes yeux avec une clarté impressionnante. Un système tout à la fois ancré dans la vie de son auteur et appelé à exercer une immense influence. Le progressisme politique est né de l'idée développée dès le discours sur l'origine de l'inégalité que le mal ne réside pas dans la nature humaine, mais dans les structures sociales. Et lisant les pages admirables que Starobinski consacre à la description par Rousseau de la fête, ce grand moment de transparence où chacun se voit et s'aime dans les autres afin que tous en soient mieux unis, j'ai compris ce qu'il y avait de rousseauiste dans l'image idyllique de l'homme nouveau propagée au XXe siècle par la passion révolutionnaire. Après cette entrée en matière fracassante, j'ai lu les autres grands livres de Starobinski. La relation critique, L'œil vivant, Trois fureurs, Montaigne en mouvement, Portrait de l'artiste en saltimbanque, L'invention de la liberté et les emblèmes de la raison, Le remède dans le mal et tout récemment, Diderot, Un diable de ramage et sur Rousseau encore, Accuser et séduire. Je croyais donc tout connaître, ou presque, de cette œuvre capitale. Je viens d'être détrompé par la parution dans la belle collection Quarto chez Gallimard de La beauté du monde, un recueil de textes de Starobinski sur la littérature, la peinture et la musique. Ronsard, Chénier, Baudelaire, Valéry, Breton, Bonnefoy, Char, Jacotet, Jouve, voisine avec Goya, Fuseli, Balthus, Monteverdi, Mozart ou Mahler. Ce recueil est précédé d'une longue préface de Martin Rueff que j'ai invité avec Jean-Claude Bonnet, auteur entre autres d'un livre passionnant sur la naissance du Panthéon, à parler aujourd'hui de l'écrivain de haute culture qu'est Jean Starobinski. Et je voudrais d'abord vous demander, Martin Rueff, la raison et le sens de ce titre, La beauté du monde.
Cette idée du titre La beauté du monde vient de Jean Starobinski lui-même, qui m'avait invité à enquêter parmi les textes très nombreux qui constituent sa bibliographie pour faire une espèce de dossier autour de ce motif. Qu'est-ce que cela veut dire, la beauté du monde? Je crois que il faut prendre ce titre au pied de la lettre d'abord, c'est-à-dire que pour Starobinski, l'œuvre d'art, qu'elle soit donc littéraire, picturale ou musicale, a d'abord pour mission d'exalter cette beauté du monde, de la rendre sensible, de nous l'offrir, d'une certaine manière, un peu comme chez Proust, de lui donner toute sa profondeur. Et l'œuvre d'art n'est pas simplement la chambre d'écho de cette beauté, mais elle nous offre aussi une voie d'accès à son intelligibilité. Et donc on peut dire que le critique Jean Starobinski a passé une grande partie de son œuvre, hein, vous rappeliez l'importance de ses études de 18e-iste. On peut dire que, d'une certaine manière, Jean Starobinski nous a offert un nouveau 18e siècle, on en parlera peut-être après. Mais La beauté du monde, c'est la tension que Jean Starobinski perçoit dans les œuvres d'art, qui est une tension double, à la fois d'adhésion à cette beauté du monde et de quête, c'est-à-dire aussi de distance, donc de son intelligibilité, des conditions de son intelligibilité.
Jean-Claude Bonnet.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une sommation du réel déjà aussi. Je crois que Jean Starobinski est très sensible au paysage de l'Engadine. Il parle beaucoup des paysages de la Suisse. Donc absolument, il est sensible à la beauté du monde elle-même. Mais évidemment, il la recherche surtout dans les œuvres. Il y a ces exclamations du jeune Proust, zut zut, oui, hein, oui. Il faut dire, sonate, que me veux-tu? Et tout le travail du créateur rejoint celui du critique. Le critique, lui, doit dire la beauté du monde dans les textes, dans les signes humains, dans les signes des grandes œuvres de l'esprit. Et là, c'est tout le travail d'interprète. Donc c'est une chose qui n'est pas donnée. C'est une chose qui reste à faire parce que les gens ne voient pas la beauté du monde en général.
Alors, et en même temps, ce titre montre à quel point, me semble-t-il, Starobinsky était en porte-à-faux avec toute une partie de la critique et de la théorie littéraire de la deuxième moitié du XXe siècle. Le structuralisme nous a montré, qu'il nous a dit qu'il fallait traiter l'œuvre comme un monde, et là je cite Starobinsky lui-même, régi par sa légalité propre. Or, dit-il, on ne doit pas ignorer ce qui dans l'œuvre, implicitement ou explicitement, se rapporte à l'univers extérieur à l'œuvre. Autrement dit, il prend parti contre l'idée de l'autoréférentialité du texte littéraire, le poème parle du poème, et il est vrai que la mimésis, la représentation, était un peu la bête noire de la théorie littéraire. Le réalisme n'est pas le reflet de la réalité, mais un tissu de convention qu'il s'agit plutôt de dénoncer. Et vous avez parlé d'interprète, Jean-Claude Bonnet. Il me semble que là, Starobinsky se situe du côté de Ricoeur, grand philosophe de l'herméneutique, qui écrivait dans Temps et Récits qu'enfermer la littérature dans un monde en soi, c'est casser la pointe subversive qui est la sienne, contre l'ordre moral et social. C'est-à-dire, c'est le contraire de ce que dit la théorie littéraire. Selon la théorie littéraire, la subversion, c'est de nous dégager de l'illusion référentielle. Or, il n'y a plus rien d'important, en quelque sorte. L'œuvre est complètement désamorcée si on rompt le rapport qu'elle a avec le monde. Et Starobinsky se met complètement du côté de la représentation.
Oui. Martin Rueff. On peut dire que le titre que vous avez évoqué, qui est un des, disons, un des rares manifestes méthodologiques de Jean Starobinsky, La relation critique, ce titre peut être utilisé pour décrire cette relation que vous avez évoquée. C'est-à-dire que la littérature entretient, par rapport au monde, une relation critique. Et c'est-à-dire, elle est en relation, elle ne trouve son sens, sa finalité, son télos propre que dans cette relation, et en même temps, cette relation, elle est critique. C'est-à-dire que elle implique justement ce mouvement d'aller-retour, qui est celui de la critique. Si on ne fait qu'enfermer l'œuvre dans le vase clos des conditions de la production de son intelligibilité, comme auraient dit les structuralistes, ou un certain structuralisme en tout cas, eh bien, oui, on la coupe du monde. Et si on la coupe du monde, on le coupe du lecteur. Il y a une autre manière de dire ce que vous évoquiez, qui est de dire que un des lieux sur lesquels Jean Starobinsky ne cesse d'attirer notre attention de lecteur, c'est la question de l'adresse. La littérature, c'est un système d'adresse. C'est-à-dire que la littérature ne parle pas simplement du monde, elle parle au monde, elle parle à plusieurs mondes, et si on coupe la littérature de cette adresse-là, eh bien tout simplement, on la transforme en une langue morte.
Langue morte. Jean-Claude Bonnet.
Oui, il y a cette idée du dialogue qui est au cœur du XVIIIe siècle. Permanent. Mais je pense quand même que si on doit revenir sur la relation critique et la position très particulière de Starobinsky, je crois que c'est son parcours, c'est-à-dire ses études à la fois médicales et littéraires. Et donc là, je dirais qu'il est en dehors des modes du moment. Il n'épouse aucune des polémiques, il n'épouse aucun des faux clivages du moment, des artifices qui opposaient par exemple la philologie et la critique. Et donc, c'est extrêmement, il s'en est tenu à cela, c'est-à-dire à son attitude originale. Je dirais que sa façon d'aborder la littérature a quelque chose d'un acte médical mimé. Il n'oublie jamais son origine, son savoir de clinicien. Et en fait, il intervient, il opère sur le texte comme il fait une sorte d'anatomie du texte.
Il est vrai qu'il a été, en effet, et vous le montrez dans votre préface Martin Rueff, il a fait simultanément, Jean Starobinsky, des études de médecine et des études littéraires. Il a mené en même temps sa thèse sur Rousseau, la transparence et l'obstacle, mais aussi sur la mélancolie, une thèse de médecine. Il a d'abord exercé dans la médecine interne avant de se spécialiser dans la psychiatrie. C'est un parcours incroyablement original, et vous citez aussi ce texte où Starobinsky dit que diagnostic et discernement, c'est deux attitudes vis-à-vis du réel qui se ressemblent.
Oui, alors, deux choses, si vous me permettez. La première, c'est que, du point de vue biographique, Jean Starobinsky a réussi ce que son père voulait accomplir et que l'histoire l'a empêché d'accomplir. C'est-à-dire que son père vient de Pologne pour faire de la philosophie. Et il arrive à une très mauvaise date à Genève, hein, à la fin de l'année 1913, et donc il est obligé de... Ses parents lui conseillent de faire plutôt de la médecine. Jean Starobinski aura fait les deux parcours, comme vous avez dit. Hein, c'est-à-dire qu'il est médecin, hein, à piano titolo, on dirait en italien, c'est un vrai médecin, et en même temps, il est devenu le grand professeur qu'on sait. Je ferai un pas en arrière pour dire la chose suivante, c'est que il y a une herméneutique de Starobinski, c'est-à-dire qu'il y a une méthode propre, une façon de faire, une manière, dirait-il lui, mais justement, cette manière de faire lui interdit, par probité, toute exagération ou toute extrapolation théorisante. Hein. Et ce livre dont nous parlons depuis quelques moments, la relation critique, hein, est un grand livre de théorie, mais cette théorie, justement, elle est complètement immanente à la pratique critique. Hein, c'est quelqu'un qui s'est toujours méfié de généralisations abstraites. Hein, et là, à mon avis, il indique une voie pour la critique des littéraires d'aujourd'hui aussi, hein, qui est de dire, voilà, si vous vous coupez du texte, si vous ne comprenez pas que l'herméneutique, elle doit être, pardonnez-moi ce cliché, hein, à fleur de texte, hein, et que c'est dans le rapport support-surface au texte, hein, qu'on va réussir à théoriser, eh bien, en réalité, vous coupez de la source vive de l'acte critique.
Oui, je pense que il a pris ses distances avec un de ses maîtres, qui était Georges Poulet. C'est-à-dire, on peut parler d'empathie. Il a fui l'empathie pour aller vers la sympathie. Mm-hmm. Et la sympathie, en fait, il la trouve dans le rapport au texte. C'est ça, c'est dans les bonheurs d'analyse. Et son bonheur, son rapport à la beauté du texte, c'est dans une sympathie vraiment avec la matérialité du texte.
Avec la lettre.
Et ça, c'est une sorte de classicisme extraordinaire. Mm-hmm. Et il s'est toujours tenu à cela.
Alors, revenons sur un texte où convergent absolument la beauté du texte dont vous venez de parler et la beauté du monde, qui était ma première question. Justement, le premier article de ce recueil s'intitule « La littérature et la beauté du monde » et Starobinski commente un extrait magnifique de « La recherche du temps perdu ». Une page décisive de sa grande œuvre, dit-il, où Marcel, enfin Proust, raconte ses promenades d'adolescent du côté de Méséglise. Il arrive au bord de la mare de Montjouvain, devant une petite cahute recouverte en tuiles, où le jardinier de M. Vinteuil serrait ses instruments de jardinage. Voyant sur l'eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriais dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé « Zut, zut, zut !» Mais en même temps, je sentis que mon devoir eût été de ne pas m'en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair en mon ravissement. Oui, parce que le toit de tuiles faisait dans la mare, que le soleil rendait de nouveau réfléchissante, une marbre rose à laquelle il n'avait jamais fait encore attention. Et Starobinski commande ce « zut, zut, zut !» C'est-à-dire, le narrateur est saisi par la beauté du monde, simplement il n'a pas les mots, mais les mots, eh bien, l'auteur les retrouve, il le dit, c'est le sens de ce passage, et là, on a une définition implicite de l'art qui nous permet justement d'accéder à la richesse du monde, et Proust nous prouve que l'art n'est pas simplement un moyen d'expression, mais est véritablement, pour nous, notamment nous lecteurs, un moyen de perception. Là, on voit ce qu'il en est à la fois de la beauté du texte et de la beauté du monde, et l'art comme dépassement du zut, zut, zut et de nos exclamations devant des spectacles admirables.
Oui, là, je crois qu'on touche vraiment à l'essentiel. Voir plus clair en mon ravissement. Voir plus clair en mon ravissement. Le geste du critique et le geste de l'artiste ne sont pas deux gestes contradictoires, ce sont deux gestes communs. Et d'ailleurs, en ce sens-là, l'autre grand homme, Julien Zanetta, le montre bien dans sa préface au texte sur Baudelaire. C'est Baudelaire, hein, c'est-à-dire que le poète et le critique sont unis dans ce geste qui consiste à voir plus clair en ravissement. Il n'y a rien de plus étranger à la pensée et à la vie de Starobinski que de penser que la sensibilité et l'intelligibilité sont deux ordres arrachés l'un à l'autre. Sentir, c'est comprendre, et comprendre, c'est mieux sentir. Il le dit à une étudiante en 1970, hein, c'est un texte que j'ai tenu à voir figurer dans ce volume qui s'appelle « Pourquoi j'écris ?». On lui dit « Écrivez-vous pour tenter de résoudre des problèmes personnels, pour établir un contact avec autrui, pour le plaisir d'inventer d'autres univers, pour cerner la réalité de plus près, contre quelqu'un, contre quelque chose ?» Et il répond « Contre l'obscurité, la confusion, l'oubli la mort, pour mieux comprendre et faire mieux comprendre. Comprendre, c'est transformer le monde. Donc la critique est investie dans cet effort de tenir ensemble intelligibilité et sensibilité, hein, d'une mission, hein, qui est une mission éthique, il faut le dire de manière très, très directe, hein, qui est, hein, d'accroître l'espace de la compréhension des humains.
Jean-Claude Benet.
Oui, oui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, cette leçon de Starobinsky, qui est totalement actuelle, c'est celle d'une exégèse laïque, dont on est, notre culture d'aujourd'hui est totalement oublieuse.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi?
Ben, je veux dire que parce qu'elle.
Exégèse laïque.
Ben, je parle de, par exemple, par rapport à l'exégèse biblique.
Ah oui.
Donc Claudel nous dit qu'elle est une boucherie, ou Montaigne nous dit qu'il faut aller chercher la substantifique moelle. Je dirais que Starobinsky, là encore, je retrouve le geste médical. Il faut anatomiser les textes, effectivement. Mmh. Mais là-dessus, je pense que sa leçon est complètement actuelle. Parce qu'on a oublié ce magistère-là. On parle du métier d'historien, mais le magistère du critique littéraire, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui n'est plus pris en compte.
Il n'existe plus.
Parce que...
Martin Rueff.
Oui. Parce que je crois qu'on vit dans un moment de l'histoire dont les lumières auraient dû nous prévenir, hein, qui est le moment précisément où on considère que la sensibilité, c'est un ordre, et que le sens, c'est un autre ordre, la signification. Et que, donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a une grande exaltation de la sensibilité, et tant mieux, mais cette sensibilité qui est exaltée, on considère qu'elle est une espèce de poche subjective, parfaitement close sur elle-même, et que chacun est dans son zut, zut, zut. Et si c'était le cas, ben on se demande pourquoi il y a des œuvres d'art. Et je crois que tu parles d'exégèse laïque, Jean-Claude, je crois que c'est tout à fait vrai, au sens où le trajet qui nous mène du sensible au sens, et du sens au sensible aussi. C'est-à-dire que le critique littéraire, c'est aussi quelqu'un qui rend le sens sensible. C'est un trajet qui fait l'œuvre de Starobinsky, et je dirais même pas qu'elle est actuelle, elle est devant nous. Elle est devant nous.
Oui, je pense que si on doit parler du fer starobinskien comme du fer des peintres, ce qui le caractérise, c'est comme tu le dis, et qui vient du XVIIIe siècle, c'est l'idée du bonheur aussi. Il y a du bonheur, et ça c'est complètement... Il y a de la séduction. C'est-à-dire que par rapport à la théorie, Starobinsky est celui qui est brillant, qui est un conférencier brillant, qui écrit brillamment. Et il n'a jamais renié cela. Et ça, je pense que ce bonheur-là, il vient aussi du XVIIIe siècle.
Alors, vous dites bonheur, et en même temps, je vais parler une dernière fois de ce texte inaugural, La littérature et la beauté du monde. Il montre que la littérature, c'est effectivement le dépassement du zut, zut, zut. Le ravissement trouve les mots pour se dire, simplement, et ça m'a beaucoup surpris à la lecture, il y a autre chose. La souffrance et le mal existent, dit Starobinsky, d'abord parce que sur les lieux mêmes de l'émerveillement, le narrateur proustien est le témoin clandestin de ce qu'il nomme une scène de sadisme entre la fille de Vinteuil et son ami. Et Starobinsky dit, on conclut que Proust conteste le primat de la beauté au nom de la vérité qui est pour lui un absolu, mais surtout... Et ça, j'ai été très frappé. Il fait une sorte de comparaison avec un poème en prose de Baudelaire, qu'il commente d'ailleurs dans un autre article de ce recueil, Le gâteau. Le gâteau évoque une ascension en montagne, le sentiment d'extase que procure cette ascension, et puis, tout d'un coup, le voyageur... prend un peu de repos, il se coupe un morceau de pain pour se réconforter. Il voit apparaître devant lui un petit être déguenillé, noir et bouriffé, dont les yeux creux, farouches et comme suppliants dévoraient le morceau de pain. Et, dit Baudelaire, je l'entendis soupirer d'une voix basse et rauque le mot « gâteau ». Le voyageur lui offre donc une tranche de pain à ce petit affamé. Simplement surgit alors un autre enfant, parfaitement semblable au pommier. Une bataille s'engage entre les œufs misérables, bataille atroce, lutte hideuse, au terme de laquelle le gâteau s'émiette, se disperse dans le sable. Et conclusion, ce spectacle m'avait embrumé le paysage, et la joie calme où s'ébaudissait mon âme, avant d'en avoir vu ces petits hommes, avait totalement disparu. J'en restais triste assez longtemps, me répétant sans cesse, il y a donc un pays superbe où le pain s'appelle du gâteau, friandise si rare qu'elle suffit pour engendrer une guerre parfaitement fratricide. Et c'est pour Starobinsky un texte absolument capital, parce que un autre motif s'inscrit que celui précisément de la beauté du monde. Martin Rueff.
Oui, c'est un texte très troublant que celui que vous venez de rappeler, qui en réalité est une espèce de réécriture. C'est ce que Starobinsky essaie de montrer de la fameuse scène des oublis hein, dans les rêveries, c'est-à-dire la scène de la largesse,
oui.
Du don. Hein, d'ailleurs, Starobinsky avait été le commissaire d'une magnifique exposition
magnifique,
qui s'appelle Largesse, Largesse, hein, oui. Qui est très très beau, qui est justement la question du don. Oui, c'est-à-dire que la beauté du monde ne doit pas nous rendre oublieux de la laideur du monde, de la dureté du monde. Et écrire, c'est pas du tout s'enfermer non plus dans le monde des petites fleurs et des rivières riantes. C'est aussi évidemment se prévenir. Mais la comprendre aussi contre cette laideur. Hein, je rappelle le petit texte que j'ai lu tout à l'heure hein, de 70 hein, sur pourquoi écrivez-vous. Hein, il dit aussi contre l'oubli, la mort. Hein, et je crois qu'un des objectifs de ce quarto, c'était aussi de rappeler que Jean Starobinsky est un fils de son siècle. C'est quelqu'un que l'histoire n'a pas épargné, tant s'en faut. Sa famille n'a pas du tout été épargnée par l'horreur du siècle.
Hein. Et lui si, parce qu'il a habité Genève.
Oui, vous avez raison de le dire. Oui, oui. Oui. Lui si, mais disons que par écho hein, et par descendance, peut-on dire, hein, la violence qui a frappé la famille de son père et la famille de sa mère, hein, lui a trempé en réalité un peu son éthique. Hein, je rappelle, je crois que c'est l'exergue de Fureur et Mystère ou d'un autre, ou du Nu perdu peut-être de René Char. Il faut savoir se composer une santé du malheur. Hein, je crois que la beauté du monde, c'est une santé du malheur. Hein, c'est-à-dire que exalter contre les puissances de l'oubli, contre les puissances de la mort, contre ce qu'il appelle très fermement dans les années 43, 44, 45, hein, les puissances de destruction. Hein, les puissances de destruction. Le nazisme, mais aussi évidemment toutes les violences de la Seconde Guerre mondiale. Exalter la beauté du monde, hein, c'est tenir coûte que coûte hein, à l'œuvre des hommes contre les tendances monstrueuses hein, de faire disparaître et les œuvres et leurs traces.
Oui. Mais le vers en noir, si on accepte Montaigne ou Diderot, c'est la mélancolie. Parce que Rousseau, justement, sur ce point, c'est tout le thème, tout le vers en noir de Rousseau, la malfaisance des signes, à la fois la pathologie. Il en parle avec tellement de pudeur, d'amitié, mais en tenant à distance cette maladie de Rousseau. Et cette mélancolie est toujours là. Quand il parle de Baudelaire, c'est par rapport à Rousseau, la polémique entre Baudelaire et Rousseau. Oui. Mais le thème mélancolique vient contrebalancer un petit peu ce bonheur dont nous parlions tout à l'heure.
Oui, mais c'est une mélancolie qui n'est pas simplement un trait psychique. C'est une mélancolie comme une sorte de disposition d'âme et de manière d'appréhender la réalité objective, hein, la réalité du mal. Mmh. Et là, je voudrais citer peut-être un autre texte très beau consacré à Goya, parce que vous dites sa famille a été frappée évidemment par la grande catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et notamment l'extermination des Juifs, mais Starobinsky, spécialiste du siècle des Lumières, est aussi très sensible à cette espèce d'inversion des Lumières dans la terreur. Et toutes ces pages magnifiques sur Goya, puisque Goya peint cette gravure extraordinaire, le sommeil de la raison engendre des monstres. Donc il montre les figures grotesques qui naissent des sommeils de la raison, mais il montre aussi autre chose. Il décrit la perversion, en quelque sorte, des Lumières, de ce mythe solaire, justement, tel que l'a vécu l'Espagne en 1808, la France révolutionnaire, eh bien, elle sème sur son passage, en Espagne à ce moment-là, assassinat et violence absurde. Une inversion maléfique remplace la lumière par les ténèbres, et la description par Starobinsky du tableau des fusillades du 3 mai 1808 est absolument magnifique. Le groupe rythmé et discipliné des soldats du peloton d'exécution représente une rationalité démente. La régularité et l'ordre, qui auraient dû marquer le triomphe des principes, viennent uniquement régler l'exercice de la violence. Et la lumière, au contraire, la lumière, elle, s'associe au groupe des victimes, et plus spécialement à l'homme du peuple qui va tomber abattu par la rafale imminente. Et là, je cite Starobinsky, « Les bras tendus dans la posture de la crucifixion, des plaies aux mains, cet Espagnol aux traits grossiers acquiert soudain la dimension du juif éternel, de l'homme humilié par l'homme. » Donc là, il y a tout ce qu'on essaye de dire, justement, sur le mal à l'œuvre dans l'histoire, et donc présent aussi dans la pensée et les lectures de Starobinsky. Martin Rueff.
Oui, là on touche à un point, me semble-t-il, crucial de la pensée de l'œuvre et de l'existence de Jean Starobinsky. C'est-à-dire que, en reparcourant dans le Vie-œuvre, sur lequel s'ouvre le volume, l'ensemble de ses livres, je me suis surpris à découvrir entre ses livres une espèce de dialectique qui répond à ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que, donc, les deux grands livres, disons, monographiques sur le 18e, c'est-à-dire l'invention de la liberté et les emblèmes de la raison, sont des livres qui sont consacrés à ce que vous venez d'épingler, c'est-à-dire les parts d'ombre qui habitent le 18e siècle. Jean Starobinsky est un homme des Lumières, et il faut le rappeler, c'est quelqu'un qui s'est justement un peu détaché de ses maîtres, qui était fasciné par ce qu'il appelle à un moment l'irrationalisme allemand, c'est-à-dire Béguin et Raymond, qui étaient très très fascinés par
le romantisme.
Et donc lui, il n'a cessé jusqu'à la fin, et même son rapport à sa propre judaïté est marqué par cette adhésion au message rationaliste, pour dire des choses un peu simples, pardonnez-moi, des Lumières. Mais, au même moment, dans ce rapport à l'invention de liberté, dans ce rapport aux emblèmes de la raison, les figures qu'il voit émerger, c'est les tableaux de Fuseli, c'est les excès de Mozart. C'est précisément ce que vous venez d'indiquer avec Goya, c'est-à-dire ce débordement, on va dire, par l'intérieur de l'irrationnel. Et entre ces livres même, cette dialectique existe. Parce que moi, j'ai été très frappé, et je pense que les lecteurs qui se souviennent de la chronologie de Starobinsky l'auront été aussi, que après Les emblèmes de la raison en 73, c'est un livre qui, pour moi, est un des chefs-d'œuvre de Starobinsky qui répond aux emblèmes de la raison, c'est Trois fureurs. Donc, les fureurs répondent à la raison. La raison est habitée par des fureurs. Nous, on est très habitués, en tant que modernes, au fait que les fureurs soient rationalisantes. On le sait tous, que ce soit la paranoïa ou la schizophrénie, etc., qui sont des grandes machines à rationaliser de manière délirante le réel. Mais Starobinsky, lui, c'est quelqu'un qui fait répondre entre ses textes, jusqu'à le remettre dans le mal, les excès internes de la raison et les fureurs.
Oui, je dirais simplement qu'il n'y a aucun déni chez Starobinsky de tout cela, cette fin des Lumières. Mais en même temps, je crois quand même que son ancrage dans le XVIIIe siècle, c'est quand même un moment plus lumineux, qui est le moment où Rousseau et Diderot rivalisent dans leur génie naissant. C'est ce moment-là, c'est cette aube des Lumières qui lui plaît, même s'il lui arrive... Comme tu viens de le dire, de prendre en compte la part d'ombre.
Et de prendre en compte, et notamment dans un texte, alors là, que j'ai complètement découvert, sur André Chénier. Ça m'a permis de lire ou de relire certains poèmes de Chénier. Donc Chénier, qui était un partisan enthousiaste de la Révolution, et qui a été désigné comme son adversaire malfaisant, condamné à mort pour sa complicité présumée avec les rois qu'il avait lui-même stigmatisés. Et je ne peux pas résister à la tentation de lire un poème cité par Starobinsky. C'est Chénier en prison qui attend la mort, Iambe, comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr, anime la fin d'un beau jour. Au pied de l'échafaud, j'essaye encore ma lyre. Peut-être est-ce bientôt mon tour. Peut-être, avant que l'heure en cercle promenée et posée sur les mailles brillants dans les 60 pas où sa route est bornée, son pied sonore et vigilant, le sommeil du tombeau pressera ma paupière. Avant que de ses deux moitiés, ce vers que je commence ait atteint la dernière, peut-être, en ces murs effrayés, le messager de mort, noir recruteur des ombres, escorté d'infâmes soldats, ébranlant de mon nom ces lents corridors sombres, où seul dans la foule à grands pas j'erre, aiguisant ces dards persécuteurs du crime, du juste trop faible soutien, sur mes lèvres soudain va suspendre la rime. C'est quand même un poème absolument extraordinaire, et je suis très heureux, Martin Rueff, que vous ayez inauguré le grand chapitre sur la poésie par ces commentaires si importants d'André Chénier, parce que là encore, on retrouve justement ce renversement du mythe solaire de la Révolution.
Oui, je crois que la figure de Chénier est très importante, et on peut dire que Jean Starobinski est un de ceux qui a arraché Chénier à des lectures scolaires, hein. Ça c'est sûr. Hein. Il a été aussi un grand découvreur et redécouvreur d'écrivains. Je crois que ce qu'on peut dire non pas clore bien sûr hein, ce chapitre sur les Lumières, mais c'est dire la chose suivante, c'est-à-dire que le véritable homme des Lumières et la véritable femme des Lumières aujourd'hui, le véritable homme et la femme des Lumières aujourd'hui, hein, c'est quelqu'un qui, comme Starobinski, hein, essaie dans le chaos de l'irrationnel de maintenir la thèse que la progression sociale, politique, etc., passe par une conquête de la raison. La conquête de la raison hein, ne consiste pas du tout à nier la part d'irrationnel et la part d'ombre, hein, mais au contraire, hein, à constamment la prendre en compte. Et je crois que c'est pour ça qu'il est si passionné et amoureux de Rousseau et Diderot, parce que qui, mieux qu'eux, hein, a su dire l'ombre qui habitait leur propre exigence de luminosité.
Oui, mais vous dites la part... c'est pas simplement une opposition entre le rationnel et l'irrationnel, c'est la démence de la raison elle-même, en quelque sorte, qui est ici abordée aussi bien à travers la lecture de Goya que l'expérience de Chénier. Qu'est-il arrivé à la raison pour que elle débouche ainsi sur ces formes de terreur?
Eh bien, on pourrait dire que la raison se nie quand elle devient un mythe. C'est-à-dire quand elle devient un mythe qui croit pouvoir rendre compte de tout. Et voilà. Starobinski est quelqu'un qui a assez fréquenté la folie pour savoir combien elle était douloureuse. Jean-Claude Bonnet le rappelait tout à l'heure. Hein, ça. Justement, prenons ce chapitre de la folie une seconde, si vous me permettez. Alors qu'une certaine exaltation traverse certains écrivains de la fin des années 60, hein, eu égard à la folie, hein, la grandeur de la folie, etc. Moi, je me souviens d'une discussion avec Jean Starobinski où il me disait, hein, beaucoup de ces écrivains, je sais pas du tout la peine de les nommer, de ces philosophes, hein, ont oublié quelque chose, c'est que la folie, c'est douloureux. Et je crois que ça, c'était très beau hein, d'entendre Jean Starobinski dire ça. Il y a une souffrance du fou. Hein. Alors le fou, ça peut exalter un écrivain, bien sûr. Hein, mais le fou, c'est quelqu'un qui souffre de sa folie.
Oui, et là, on retrouve cette question de l'écoute, c'est-à-dire l'écoute des textes. Un texte, c'est comme un organisme, c'est un rythme, c'est une respiration. Et il y a dans l'œil vivant, un critique, le critique de l'œil vivant, c'est une sorte de bouche à bouche, la critique. C'est celui qui ressuscite nos chers disparus, comme il dit à propos des œuvres. Et là, on retrouve ce magistère à la fois médical, à la fois extraordinaire.
Oui, alors, vous dites une écoute. Parlons maintenant de la musique, puisque Starobinski avait une curiosité universelle. Ce critique médecin a écrit sur la littérature, sur la peinture, sur la musique. Et vous avez fait allusion tout à l'heure, Martin Rueff, à un extrait de Don Giovanni de Mozart sur les excès. Alors peut-être pouvons-nous maintenant écouter cet extrait que vous avez choisi vous-même et clore peut-être notre réflexion sur les Lumières à travers le commentaire que vous en donnerez. Thank you. Cet air de Mozart était chanté par Gundula Janowicz. Mais pourquoi ce choix, Martin Rueff? Et surtout, resitue-nous ce passage dans le contexte de l'opéra de Mozart.
Oui, donc c'est Elvire qui chante. C'est une Elvire qui trahit, justement, traduit la complexité des sentiments qui la lie à Don Giovanni. Je vais citer les quelques lignes que Jean Starobinski consacre à cet air, et puis j'essaierai de dire deux mots sur son rapport à la musique. Elvire devine que le trait fatal est prêt à tomber sur Don Giovanni. Elle sera donc vengée. Mais l'orchestre soudain soupire. Il parle à la place d'Elvire pour exprimer un aveu qu'elle tarde à faire. Elle est angoissée. Elle éprouve des sentiments contraires, che contrasto d'affetti. Entre une terreur et une pitié extrême, elle se sent divisée. La division d'Elvire, hein, ça, la Spaltung, comme il arrive de dire en allemand, hein, ce qui la traverse par rapport à Don Giovanni, c'est ce que Jean Starobinski va chercher dans la musique. Hein, il est l'auteur d'un livre qui a été publié très gracieusement par Maurice Hollander au Seuil, qui s'appelle hein, Les Enchantresses, dans lequel, qui rassemble en fait plusieurs textes sur la musique, hein, dans lesquels Starobinski montre que la musique hein, va au plus profond de la séparation interne de nos sentiments, hein, c'est-à-dire une espèce de jouissance aussi du malheur, hein, le plaisir des larmes, comme chez Saint-Augustin, et en même temps une espèce de déchaînement passionnel que Starobinski hein, lie, il faut le dire, hein, au féminin. C'est-à-dire que le chant et l'enchantement, hein, la séduction dont parlait Jean-Claude Bonnet tout à l'heure, hein, est lié au motif du féminin, au voile de Poppée aussi. Hein, il a commenté très, très profondément la figure de Poppée chez Monteverdi. Et la musique qui accompagnait toute la vie de Jean Starobinski, parce que nous le disions, c'est un médecin, c'est un grand professeur, c'est un grand écrivain, mais c'est aussi un très bon musicien hein, qui savait lire la musique et qui jouait avec ses trois fils, ses deux fils en tout cas, à Genève dans leur salon. Il faisait un salon de musique, hein, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué la musique, beaucoup écouté la musique. Et il me semblait important de montrer dans ce livre, hein, qui donne la part la plus belle à la littérature, hein, bien sûr, et aussi à la peinture, mais de montrer la part qu'avait joué la musique, et pas par hasard Mozart. Puisque Mozart, précisément, est une des figures de cet homme des Lumières qui a donné tant de part à l'obscurité qui habite
le sujet. Il y a un rapport aussi avec la grande méditation de Starobinski sur les Lumières et absolument. La part d'ombre de la vie.
Absolument, absolument. Il trouve cela chez Mozart, hein, c'est le musicien sur lequel il a le plus écrit. Hein, il a aussi écrit sur Da Ponte, librettiste. Hein, il trouve chez Mozart, le sommet de cette tension dont nous avons longuement parlé tous les trois, hein, entre la part d'ombre et la part lumineuse, qui chez Mozart sont une seule et même chose, presque.
Oui, il arrive aussi avec Mozart, dans ses frontières. Qu'est-ce que ce livre illustre? Il s'avance sur des frontières, c'est-à-dire sur des arts dans lesquels il est en rivalité désarmée, comme il dit de Diderot, avec la peinture. C'est un livre aventureux parce que effectivement il y a la musique, il y a le langage poétique qui n'est pas le langage de la tribu, il y a la peinture. Et donc, c'est ce défi, c'est ce qui est passionnant dans ce livre, dans ces textes-là, c'est cela. En ce qui concerne Mozart, c'est le livret, parce que il dit l'antique alliance de la parole et de la musique. Mozart, c'est l'aboutissement de toute une réflexion du XVIIIe siècle, justement, sur comment, quel est le rapport entre le livret et la musique? Et c'est sur le, il y a beaucoup de textes de Diderot passionnants sur ce point. En ce qui concerne la musique, je voudrais évoquer Roland Barthes, puisque au moment de la mort de Roland Barthes, voici ce qu'écrit Jean Starobinski dans la Gazette de Lausanne. Son élégance, sa gentillesse, où la simplicité s'alliait à l'exigence du style, son acuité était celle des êtres qui prennent pour modèle de leur existence la perfection d'une mélodie. Son œuvre littéraire, pour qui la considère dans son ensemble, est celle d'un musicien des idées. Alors là, ce qui est très étonnant, c'est que ce sont des phrases parfaites pour Roland Barthes, mais qui s'appliquent totalement à Jean Starobinski. Et on s'aperçoit que dans cette évocation de Barthes, dans cet hommage, il y a en fait un autoportrait furtif. Puisque, effectivement, ce rapport à la musique est aussi important pour Jean Starobinski que pour Barthes. Et c'est ce qu'a très bien vu, d'ailleurs, le grand critique japonais Akira Mizubayashi, dans un très bel hommage à Barthes, dans un livre publié en 2011, Une langue venue d'ailleurs, où Akira Mizubayashi dit qu'il a découvert la voix de Starobinski à la radio. Et il la qualifie, il dit « cette voix était claire, sonore ». Discrètement mélodieuse. Alors ça, c'est toute la nuance japonaise, hein, le discrètement mélodieux. Il n'y a pas d'affaîtrie dans la mélodie de cette voix, il n'y a pas d'artifice. C'est quelque chose qui est mélodieux. Et d'ailleurs, Akira Mizubayashi explique qu'il va jusqu'à dire que l'herméneutique de Barthes, c'est une orchestration. Il ne se perd pas parce qu'il y a précisément ce rapport au rythme, ce rapport à la musique, cette dimension acoustique des œuvres. Et on le trouve dans un très beau passage, dans un très beau texte de ce livre, c'est quand Jean Starobinski reprend des notes après avoir écouté Paul Celan lire un de ses poèmes. Et tout à coup, il fait un diagnostic. Il fait de la lecture de Celan, du poète, de ses propres œuvres, il la décrit d'une manière absolument magistrale.
Alors, en même temps, il y a autre chose peut-être que Barthes et Starobinski ont en commun. Barthes a, une période de sa vie, incarné cette théorie littéraire. Il a été pris du vertige de la scientificité. Il a dénoncé l'illusion référentielle. Il est revenu à la fin de sa vie de cette illusion désillusionnée, si je puis dire. Mais leurs grandes œuvres, à l'un et à l'autre, sont des essais. Et je trouve que Barthes, comme Starobinski, ont porté l'essai, le genre de l'essai, à véritablement son incandescence. Et je vous suis reconnaissant, Martin Rueff, de citer dans votre préface des textes consacrés par Starobinski à l'essai. Il dit, ce mot provient du bas latin exagium, la balance, essayer dérive d'exagiare, qui signifie peser, mais un autre sens d'examen désigne l'essaim d'abeilles, la nuée d'oiseaux, d'où sa conclusion, l'essai, autant dire la pensée exigeante, l'examen attentif, mais aussi l'essaim verbal, dont on libère l'essor. C'est un peu ça aussi, l'œuvre de Starobinski.
Ah oui. Oui. Ce texte convient très bien, même pour donner une espèce d'image de l'ensemble de son œuvre. Hein, c'est-à-dire, l'essai, c'est une tentative de répondre à l'appel des choses, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure. C'est-à-dire, l'essai, c'est une réponse à la provocation du réel et de la provocation des œuvres. Et en même temps, l'essai implique une part de moi qui n'est pas tentée par l'hubris des rationalisations. Hein, l'essai ne pèse pas, hein, c'est le glissons légèrement, hein, passons. Hein, l'essai, c'est une manière aussi de passer. Hein. Et cela se raccorde très bien à ce que nous disions sur la musique, hein, parce que dans une phrase de la parole, c'est-à-dire l'entretien avec Gérard Massé, hein, voilà ce que dit Starobinski de son idéal de la phrase. Je crois qu'un vrai plaisir va de pair avec la réussite d'une lisibilité. La phrase musicale, je veux dire la phrase classique avec sa liberté mesurée, a quelque chose d'émouvant, presque aux larmes. Hein, c'est-à-dire que arriver à l'exactitude, hein, la précision dans le phrasé de la langue française, C'est une joie, il la compare à celle de Haydn, mais ça va très bien pour Mozart aussi, qui a précisément une mélancolie propre. C'est évidemment pas la mélancolie de Beethoven, c'est pas la mélancolie de Schumann, c'est pas la mélancolie de Mahler. C'est la mélancolie du matin, si j'ose dire, de Bach, le Bach qui ouvre votre émission. C'est-à-dire, il y a une tristesse là-dedans qui est liée aussi à des espèces d'aiguilles qui touchent notre sensibilité. L'essai, c'est cela. L'essai doit porter cela, le porter de manière sensible. Le rapport à l'érudition de Starobinsky est merveilleux, parce que c'est un savant extraordinaire. C'est quelqu'un qui ne fait pas peser ce savoir.
Et en même temps, il définit le mauvais essayisme. Mm-hmm. Il parle de l'essayisme dansant. C'est une mauvaise pente. L'essayisme dansant, c'est ce qui est l'équivalent du on pourrait dire, de l'érudition pédestre. Mm-hmm. C'est deux choses qui risquent de plomber l'œil vivant, qui font que l'œil ne voit plus rien, comme les statues de Baudelaire. Mm-hmm. Un œil mort. Et donc l'essayisme dansant, c'est quelque chose qui peut justement momifier. Donc il faut faire attention, et donc ne pas trop danser. Mmh, et en même temps, il y a cette ligne étroite entre ce classicisme dont Martin vient de parler, et la séduction, mais sans trop d'excès. Il faut se garder d'un côté et de l'autre. Et je trouve qu'il est un de ceux, dans son herméneutique littéraire, qui trouve vraiment un équilibre.
Alors peut-être aussi, cela vient-il de l'authenticité de son travail. Vous citez, Martin Rueff, un autre texte de Starobinsky que je ne connaissais pas, d'ailleurs, le poème d'invitation. J'aimerais bien le trouver, parce que tous les extraits que vous en donnez sont absolument magnifiques. Mais cette phrase, dans le domaine de l'essai, mon point de départ est aussi le saisissement. L'intuition d'une question où notre vie est impliquée. À partir du moment où on a une question où notre vie est impliquée, dès lors que c'est le point de départ, je crois qu'on n'est pas du tout dans l'essayisme dansant, il me semble, Martin Rueff.
Oui, alors là, vous touchez à un point qui me fascine chez Jean Starobinsky, c'est son rapport à la gravité, justement. C'est-à-dire qu'on peut dire que toutes les questions qu'aborde Jean Starobinsky sont des questions graves, avec Rousseau, la question du mal en société, avec Chénier, la question de la mort, des questions aussi qui sont graves dans le quotidien, ce qu'il appelle l'ordre du jour, la manière dont on passe ses journées, etc. Et ce rapport à la gravité, qui est précisément l'engagement, on pourrait dire, l'embrayage de cette horrible image existentielle de ces questions, il arrive à le traiter comme Haydn traite le malheur, c'est-à-dire avec légèreté. Et l'essai est la forme de cette légèreté. Les essais de Starobinsky se lisent de manière particulièrement heureuse. Et en même temps, je crois que rien de ce qu'il écrit n'est pas ancré dans des questions de vie ou de mort, pour dire les choses de manière assez grave.
Oui, je pense à un autre très beau texte du livre sur Van Gogh et le portrait du docteur Gachet. On est dans la dépression, deux dépressions qui se font face. Et il trouve des mots légers, comme dit Martin, effectivement. Il l'évoque avec une discrétion, une main légère. Ça, c'est aussi la signature de Starobinsky.
Alors, puisque vous parlez de Van Gogh, l'émission se termine. Un dernier mot sur la peinture, et ce qui nous ramène à la question initiale, la beauté du monde. Dans ses conversations avec Gérard Massé, Starobinsky répond à la question suivante. Est-ce qu'il faut que la peinture soit figurative pour qu'elle vous intéresse? Il dit, j'ai éprouvé de l'admiration pour les œuvres comme celles de Poliakov ou de Rothko, dans sa meilleure époque. Mais je reste assez inquiet de la disparition d'un rapport à la terre dans beaucoup de productions de la peinture contemporaine, ou dans les montages divers qui se substituent à la peinture. Cette terre dont nous avons tellement le souci, n'est-elle décidément plus représentable? N'y a-t-il plus de paysages? Faut-il que la peinture, au lieu de représenter le contre-courant, s'inscrive au contraire dans un processus d'effacement de la terre? Je me pose beaucoup de questions. Que pensez-vous de cette réflexion pour terminer, Martin Rueff?
Jean Starobinsky est quelqu'un qui a accompagné l'art de son siècle, Il a accompagné les peintres, il a accompagné les textes sur Balthus que Laurent Génier présente aussi de manière très belle, sont là pour en témoigner. Il a accompagné les poètes de son siècle, hein, tu évoquais Celan, il a accompagné les musiciens de son siècle, hein, et les théoriciens de son siècle, mais toujours avec le même souci, hein, que faisons-nous du monde ? Qu'est-ce que les œuvres nous disent du monde ? Qu'est-ce que le monde va faire des œuvres ? Et des œuvres des hommes et des hommes des œuvres. Hein. Et donc ce souci ne le quitte pas. Et vous avez vu la manière dont il présente cette inquiétude ? Je me pose des questions. Je me pose des questions.
Oui. Le donner.
Jean Sorabinski n'est pas un être du virtuel, ça c'est clair.
Mais écoutez, c'est une très belle conclusion. Et je rappelle le titre du livre dont nous avons parlé, de Jean Sorabinski, « La beauté du monde, la littérature et les arts ». Ce livre est l'édition de ce livre a été établie sous la direction de Martin Rueff. La semaine prochaine, le titre de l'émission sera « Islam, islamisme, islamophobie. Mes invités seront Tahar Benjelloun et Marwan Mouhamad. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Jehan Richard Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.